RCF.
Isabelle Chartier-Sibane, bonjour.
Bonjour Véronique.
Vous êtes médecin, spécialiste en psychologie et en victimologie. En 2002, vous avez fondé une association qui s'appelle C'est-à-dire. C'est une association qui vient en aide aux personnes victimes d'abus et d'attentats. Vous êtes beaucoup intervenu et vous continuez de beaucoup intervenir auprès des autorités civiles, mais aussi des autorités religieuses et dans le monde chrétien et catholique en particulier. Vous êtes beaucoup sollicité par des diocèses, des instituts religieux, des communautés, par des individuels aussi, des individus, des personnes. Vous publiez un livre qui est paru aux éditions d'Emmanuel qui s'appelle « Trois jours dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus ». Ce livre, est-ce que c'est votre idée? Est-ce que c'est une sollicitation d'un éditeur? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous avez accepté?
L'idée ne vient pas de moi, justement. C'est un éditeur des éditions de l'Emmanuel, Gonzague de Ponta, qui m'a écrit un mail un jour me proposant d'écrire mon expérience auprès des personnes victimes d'abus. Parce que je reçois à longueur de jour, parfois de nuit, des personnes qui ont été victimes, alors victimes de beaucoup de choses. Dans les statuts de l'association, ce sont les personnes qui sont victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels. Donc dans le physique, il y a aussi les abus sexuels. Et nous recevons également des victimes d'attentats. Mais là, les éditions Emmanuel me demandaient d'écrire quelque chose de spécifique à l'Église, alors à la fois ce qui se passe au sein de l'Église et aussi comment l'Église répond à cette situation-là.
Finalement, pourquoi avez-vous accepté, malgré, je crois, quelques résistances ?
Oui, alors effectivement, j'ai eu quelques résistances parce que moi je travaille sur ce sujet-là depuis 30 ans. L'association a été créée, fondée, cofondée en 2002 et je dirais que de 2002 à 2015, on a œuvré auprès des personnes victimes en restant très très caché. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas accepté au sein de l'Église, on ne pouvait pas en parler, et moi je fournissais de temps en temps à certains évêques des dossiers très documentés, je n'étais pas très bien reçue. Et donc je préférais garder œuvrer dans l'anonymat, et tout en aidant justement les personnes victimes. Voilà. Et puis en 2015, il y a eu le suicide d'un prêtre, et là je dirais que je suis sortie de l'anonymat parce que j'étais trop ulcérée par ce qui se passait, et effectivement depuis ce moment-là, je me suis beaucoup sollicitée. Et donc pour le livre, au départ, ce n'était pas dans mon esprit d'écrire un livre spécifiquement sur ce qui se passait dans l'Église. Et puis comme l'éditeur a insisté en me disant que si je ne partageais pas mon expérience, c'était quand même un petit peu dommage, et que j'étais bien placée pour le faire, je me suis dit que après, je ne pourrais plus critiquer. Si moi je ne m'impliquais pas pour faire connaître la chose, pour transmettre ce que j'avais appris, eh bien voilà, je ne pourrais plus m'en vouloir à moi-même si les choses n'avançaient pas.
Et alors qu'est-ce que vous avez appris? Ça pourrait être la conclusion de l'émission, mais on va commencer par ça. Si vous deviez le résumer en quelques mots, qu'est-ce que vous avez appris à travers ces 30 ans d'expérience, et notamment ces dernières années en particulier, suite même au rapport Sauvé, etc.
Alors moi, ce que j'ai appris de la part de mes patients, c'est que tout ce qui est abus, qu'il soit sexuel, qu'il soit de manipulation mentale ou qu'il soit spirituel, abus spirituel, ça avait des conséquences et des conséquences extrêmement graves. Et donc là, je dirais, ce sont quand même les progrès en sciences humaines qui ont permis de se rendre compte que les personnes étaient très abîmées par ces abus. En réalité, si ça n'avait pas de conséquences, ces abus, ça serait un problème de moraliste, de théologien. Or là, c'est un problème, je dirais, de santé publique. Et puis, j'ai malheureusement appris, comme l'a fait Jean-Marc Sauvé avec la SIAZ, qu'il y avait des choses absolument qu'on ne pouvait pas imaginer qui se passaient dans l'Église. Et que la prise de conscience n'avait pas du tout été suffisante, et la manière dont ça avait été traité était catastrophique.
Alors dans votre livre, et d'ailleurs de manière générale, vous ne vous en cachez pas du tout, vous dites que vous êtes vous-même chrétienne, vous êtes croyante. Est-ce que c'est une aide ou un obstacle ou une limite parfois dans l'exercice de votre métier quand vous avez affaire à des personnes qui ont été victimes d'abus, de quelque sorte que ce soit, au sein de l'Église?
Alors, le fait que je sois chrétienne est une aide pour les personnes, en particulier pour celles qui sont victimes au sein de l'Église, parce que il y a des personnes qui sont très spécialisées dans tout ce qui est traumatisme psychique, puisque c'est ça dont il s'agit, qui sont certains aussi sont spécialisés dans les phénomènes d'emprise. Mais lorsque la manipulation vient de l'Église, elle est particulière. Et donc, en réalité, on n'entend que ce que l'on connaît. Et moi, comme je connais, par exemple, dans l'Église, de l'intérieur, ce qui peut être dit, je suis capable de me rendre compte s'il s'agit d'une manipulation ou s'il s'agit d'un chemin d'ascèse qui est demandé à la personne.
Ça rassure les gens, les patients qui sont des croyants, qui sont des fidèles. Ça les rassure de savoir que vous-même... Vous croyez dans le même Dieu que vous avez la même pratique qu'eux ?
Oui, ça les rassure, et je dirais même ceux qui sont d'autres religions, ça les rassure également souvent de savoir que je suis susceptible d'aborder le côté spirituel de leur être. Alors, en sachant que je fais très très attention, parce qu'il faut en aucun cas, lorsqu'on fait des thérapies, mélanger
les disciplines.
Les gens. Si vous voulez. En tout cas, je ne considère pas chez les personnes que leur foi est un délire, quelle qu'elle soit.
Comment est-ce que vous êtes devenu victimologue ? Et puis, qu'est-ce que c'est que la victimologie ?
Alors, je commencerai par la deuxième question. La victimologie, c'est, en tout cas pour moi, en tant que victimologue, c'est-à-dire je suis spécialisée en médecine, psychologie et droit des victimes. Donc, je suis médecin de base. Et ensuite, parce que j'ai fait des études de théologie là sur Paris, et de ce fait, j'ai été appelée dans des établissements scolaires en tant que médecin chrétien pour faire des séances de prévention des conduites à risque sur alcool, drogue, suicide et sida. Je suis spécialisée dans le sida. Et c'est comme ça que j'ai eu les premières personnes qui sont venues me voir, c'est-à-dire à l'issue de mes formations dans les établissements scolaires et également en aumônerie post-bac, des personnes sont venues me voir et m'ont fait des révélations de maltraitance en intrafamiliale. Et donc, l'association est née pour cela. C'est parce qu'on ne pouvait pas utiliser la carte vitale des jeunes qui venaient nous voir, parce que si c'était le père qui l'avait abusé la nuit précédente, il n'allait pas donner sa carte vitale pour que le jeune se fasse suivre. Et moi, je me suis aperçue que des jeunes étaient un peu en déshérence entre ce qu'ils avaient vécu et ce qui était l'institution étatique proposait pour leur suivi. Donc, nous, on s'est placés dans un espèce de vide qui permettait ensuite d'orienter vers les bonnes structures. Et c'est de là que l'association est née.
Et la victimologie et devenir victimologue, c'est particulier quand même comme terme.
C'est la science des victimes. Il y a les criminologues.
Oui, c'est ça.
Et alors il faut savoir qu'avant, la victimologie faisait partie de la criminologie. On faisait des études de criminologie qui incluaient, je dirais, la science des victimes.
Mais, et pourquoi séparer les deux ?
Et ça s'est séparé, eh bien parce que, et je crois que c'est très important que ce soit séparé, parce que ça permet d'aborder pleinement les choses de manière entière et spécifique. Les personnes victimes ne sont pas des personnes criminelles. Et on a un peu tendance, justement, souvent on se dit, ah ben tiens, celui-là, il a eu un problème lorsqu'il était jeune, il a été victime d'un abus lorsqu'il était jeune, et tout d'un coup, on est prêt à lui jeter l'opprobre dessus, et ça, c'est une confusion qui est effarante et très nuisible à tout le monde, ce que je veux dire. Et donc, moi, je trouve que ce soit très bien, et donc je fais très attention, justement, moi, à rester dans mon domaine de victimologue, à recevoir des victimes, en sachant que je reçois aussi de temps en temps des personnes qui sont des abuseurs, dans le sens où lorsqu'il y a un risque suicidaire, on me les adresse. Et donc avant qu'ils ne soient pris en charge par les structures adaptées, aujourd'hui on a la chance d'avoir ce qu'on appelle les CRIAFS, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes auteurs de violences sexuelles.
Quand vous avez commencé vos études de médecine, Isabelle Chartier-Sibène, vous aviez prévu que vous vous orienteriez vers cette spécialité et vers ce type de soins ?
Ah non, pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Quand j'étais jeune, ce que je voulais faire, c'était être pédiatre et avoir 10 enfants. Donc je ne suis ni pédiatre, j'ai quand même réussi à être médecin, ce que je voulais depuis, je le disais depuis 5 ans, hein, l'âge de 5 ans, que je voulais être médecin, donc ça j'ai réussi à l'être, et, mais je n'ai pas 10 enfants, j'en ai 2, et j'ai été gravement malade, et je pense que c'est ça qui a aussi orienté ma vie, dans le sens où, à la place de continuer à exercer la médecine pendant un temps, car je ne pouvais plus, eh bien j'ai fait des études de théologie, parce que le prêtre qui nous accompagnait à ce moment-là, nous disait très justement d'ailleurs, la foi du charbonnier, c'est bien pour les charbonniers, mais comme vous avez un bon, disait ça à mon mari et à moi, comme vous avez un bon niveau intellectuel, il faut que vous formiez également, donc ce que nous avons fait, moi en particulier, et mon mari maintenant plus spécifiquement, et donc c'est comme ça que j'ai atterri dans les établissements scolaires, où j'ai pris connaissance de la maltraitance, et là je me suis sentie pas du tout suffisamment formée pour faire face aux situations qui m'étaient racontées, donc j'ai commencé par faire la psychologie, puis la psychothérapie, et enfin de la victimologie. Parce que la victimologie, c'est particulier, c'est-à-dire que on ne règle pas simplement les conflits intérieurs, que tout le monde porte en soi, qu'on soit victime, qu'on soit peu importe, ce que je veux dire, tout être humain a à gérer ses problématiques personnelles, mais la victimologie apprend à mettre, je dirais, le monde à l'endroit. Il y a à un moment donné où des personnes ont été agressées et ça a eu un impact dans leur vie et ça a changé leur vie. Il y a eu un avant et un après.
Alors, comme c'est une émission qui porte quand même sur vous, sur votre parcours, j'aimerais bien savoir comment ça s'est tricoté tout ça avec votre foi personnelle. Est-ce que parfois c'est entré en conflit ou au contraire l'un a édifié l'autre ?
Oui, effectivement, tout à l'heure vous me demandiez le fait d'être chrétienne, est-ce que ça facilitait ou non les choses ? Non, ce que je veux dire, là, avec tout ce que j'entends, ce que j'entends à longueur de jour, hein, c'est énorme et c'est catastrophique. Et ce que je dis dans mon livre, je raconte pas tout. Mais moi, quand les personnes viennent me le raconter, il faut que j'entende tous les détails parce que ça fait partie de la thérapie d'aller jusqu'au bout. On met pas un pansement sur une plaie purulente, donc on est obligé de tout nettoyer, de tout entendre. Au début, je disais aux personnes, ne vous en faites pas, vous pouvez toujours parler. J'ai beaucoup, beaucoup entendu. Jamais je me serais douté que j'entendrais autant. Et donc, en particulier venant de personnes d'église, parce que c'est toujours plus facile quand ça vient d'ailleurs, on se dit, oui, ben là, moi, je suis dans un endroit protégé, j'ai fait le bon choix. Ben non, là, je peux dire que j'ai fait le mauvais choix, quoi, dans les horreurs qui sont racontées. Et ça m'oblige, moi, ça m'oblige vraiment à remettre ma foi, à rester droite et à rester droite dans mes bottes et à revitaliser ma relation au Christ. Donc effectivement, j'ai beaucoup perdu dans ma confiance dans l'Église, dans les hommes qui constituent l'Église, même si le credo, j'ai pas de difficulté à le réciter. Hein. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique, et donc pour moi, ça, je n'ai pas de difficulté à le dire. Mais par contre, ma confiance dans les hommes d'Église a considérablement diminué. Et même de temps en temps, ça me fait peur de me dire sur quoi je vais encore tomber. Comme horreur.
Est-ce qu'il vous arrive d'être traversé par des idées de soupçons, par exemple, quand vous croisez un prêtre, un religieux ou une religieuse d'ailleurs, est-ce que ça vous hante un peu ?
Ce qui me fait le plus peur, parce que ça m'est arrivé en thérapie, c'est-à-dire que des gens que j'aime bien, que je découvre un jour que ce sont des agresseurs sexuels, parce que ce que je veux dire, on sait à peu près ceux qui ont fait des abus de pouvoir. Les abus de pouvoir, ça se connaît, les abus spirituels, comme les frères Philippe, en tout cas, moi je le sais, je sais assez bien les détecter et je m'en rends assez vite compte. Par contre, les abus sexuels...
C'est plus compliqué.
Oui, c'est plus compliqué, parce que ça fait partie vraiment de l'intime, et ça touche des personnes, je dirais, isolées chacune, et dans son histoire, dans son intimité, c'est pas... Et donc là, pour moi, c'est terrible lorsque, en thérapie, par exemple, les personnes commencent à me décrire des situations cauchemardesques. Et puis au bout de la... Moi, je ne demande jamais les noms. Hein, mais les gens ensuite me le disent pour savoir les démarches à faire, etc. Et quand c'est un de mes meilleurs amis, je reconnais que c'est effroyable.
Ça vous est arrivé ?
Oui, ça m'est arrivé. Et donc là, je suis obligée d'en avertir les personnes en disant que je connais. Et donc on voit soit la personne que je reçois va voir quelqu'un d'autre, parce que je peux perdre mon objectivité, soit elle continue avec moi, mais on prend des garde-fous supplémentaires. Et c'est ça pour moi l'avantage, c'est de travailler en association, c'est-à-dire je suis très entourée, très aidée, très surveillée, je dirais.
Comment vous pensez être perçue, vous, au sein de l'Église ? On vous sollicite, on fait appel à vous. En même temps, vous êtes susceptible de faire connaître des situations parce que des gens sont venus vous raconter ce qu'ils ont subi et que vous ne pouvez pas vous taire.
Oui. Alors, en gros, je suis quand même liée par le secret professionnel. C'est-à-dire que si les personnes ne veulent pas que je parle, je ne parle pas. Et parfois, certains de mes patients me demandent au contraire de les aider à parler. Voilà, donc moi ce que je souhaite, nous ne sommes pas des militants, et donc on a toujours une réflexion permanente sur ce sujet-là, c'est-à-dire que nous ne sommes pas militants. Quelquefois c'est très dur, parce que quand on a envie de hurler et de pratiquement de frapper certaines personnes, je dirais, voilà, justement, mais c'est un garde-fou pour nous, nous ne sommes pas militants. Moi je peux aider si la personne me demande notre aide, puisqu'on travaille aussi avec des juristes, des canonistes, des théologiens, on est susceptible de les aider à faire les démarches nécessaires pour avancer dans la vie.
Comment vous pensez être perçu ? Est-ce que vous êtes à la fois, on vous fait confiance, ou au contraire on se méfie de vous ?
Alors au départ on se méfiait beaucoup de moi, et moi j'étais naïve. Et je suis arrivée voir certains évêques avec des dossiers très objectivés de faits, allant jusqu'à leur dire, bon ben voilà, il faut que vous fassiez quelque chose parce que je sais que la corde, elle est prête dans la grange de la communauté et quelqu'un va se suicider. Et là, j'étais très très mal reçue. Ou bien, j'ai été très mal reçue. Et puis d'autres, j'allais leur parler, leur raconter en accompagnant des personnes victimes pour les aider à s'exprimer, à trouver les mots, M-O-T-S, pour dire les choses. Et lorsque j'appelais trois semaines après ou un mois après pour savoir ce que l'évêque avait pris comme décision, il me répondait, mais madame, je vous ai écouté. Voilà, ça ne me semblait pas tout à fait suffisant, parce que si j'avais besoin d'un psychanalyste, ce n'était pas lui que je me serais adressée.
Ça a évolué, ça ?
Oui, alors complètement. Alors là, justement, il y a eu un bouleversement, heureusement, et essentiellement marqué par la SIAZ. Nous, on a été des lanceurs d'alerte pendant très longtemps, et aujourd'hui, avec la SIAZ, les choses ont considérablement évolué. C'est-à-dire que moi, je suis sollicitée, comme vous le disiez au début, par beaucoup de diocèses, par des séminaires, par des communautés religieuses. Je travaille en très très bonne intelligence avec des supérieurs de communautés. Les choses ont considérablement changé. Alors, la manière dont certaines personnes me perçoivent, j'ai quand même le sentiment qu'il y a certaines personnes qui, sachant que je sais, que je dérange. Voilà. Une ou deux fois, j'ai eu peur pour ma vie sur certains dossiers. Et donc, pendant un certain temps, j'ai fait attention.
Ça veut dire que vous avez reçu des menaces par moment ?
Une ou deux fois, oui.
Parce que vous en saviez beaucoup ?
Oui, j'en sais beaucoup. Et j'en sais toujours beaucoup. Et donc, je dis que dans tous les cas, mes dossiers, ils sont préservés. Même si moi, on me supprime, eh bien, il y a certains dossiers qui sont à l'abri. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai des personnes qui sont autour de moi qui m'aident à bien me situer.
Votre métier, c'est un métier d'écoute avant tout ?
Oui, c'est un métier d'écoute.
Qu'est-ce que ça vous demande d'autre, comme disposition, on va dire, ou qualité ?
Alors, ça demande énormément de temps. Déjà, c'est la première des choses, c'est que ça demande énormément de temps. Moi, ma vie est consacrée à ça, donc il n'y a pas un jour où je ne travaille pas. Et puis, le fait d'avoir écouté des personnes qui sont extrêmement souffrantes, et souvent des psys m'envoient vers moi des situations dont ils n'arrivent pas à se sortir, parce qu'il n'y a pas d'évolution suffisante de la personne, il y a des risques suicidaires, donc on m'adresse des cas très lourds. Et donc, si vous voulez, les gens ne se suicident pas aux heures de bureau. Donc ça me demande une disponibilité permanente. Ça demande une solidité intérieure et donc une compétence. Je suis extrêmement formée et je continue à me former. Et je pense que ça me donne une solidité parce que, en réalité, on ne peut entendre que ce que l'on connaît. Et donc, le fait d'être bien formé va permettre de pouvoir entendre beaucoup de choses. Et puis, il faut aussi ne pas être déboussolé. Quand je vois Jean-Marc Sauvé dire dans l'un des derniers articles avec Judith Godrèche, avec lequel il a échangé, dire qu'il est encore en thérapie et qu'il est suivi, c'est vrai qu'il faut être tout le temps bien accompagné. Mais il faut en même temps, Jean-Marc Sauvé, et je l'admire parce qu'il a accepté de faire ce qu'il a fait, hein, à mon avis, il ne s'attendait pas du tout.
Il l'a dit d'ailleurs.
Oui, à entendre ce qu'il a entendu. Et donc lui, je pense qu'on a les victimes primaires qui vivent les choses, on a les victimes secondaires qui entourent les personnes. Lui, il se situe entre ce que j'appellerais la victime secondaire et la victime tertiaire. Lui, il a été bousculé, j'irais, dans ses fondamentaux. Et donc, moi, aujourd'hui, je pense que j'ai quand même une épaisseur de connaissances et d'expérience qui me permet de tenir dans ces situations-là.
En quoi, Isabelle Chartier-Sibène, on peut être bousculé, d'autant plus quand ce qu'on découvre en termes d'abus, et notamment d'abus sexuels, se passe au sein de l'Église? Qu'est-ce qui est touché, encore plus gravement peut-être?
Qu'est-ce qui est touché plus gravement, je dirais, c'est la confiance. C'est la confiance. Nous, en tant que chrétiens, c'est la base de notre foi, je dirais. C'est la confiance en Dieu, c'est la confiance en l'homme, c'est la confiance en la création. Et ce en quoi on est bousculé, c'est dans cette confiance. J'ai mis ma confiance dans des hommes qui se disaient soit successeurs des apôtres, soit engagés dans le célibat, si je parle des prêtres, engagés à la suite du Christ. Et là, j'ai été trahi.
Ouais.
Et c'est ça qui est phénoménal et qui détruit. Et ça détruit dans les profondeurs de mon être. Ce que je veux dire, c'est sur le plan spirituel que je suis touchée. Je suis touchée dans le sanctuaire de mon âme, dans ma relation à Dieu.
Il y a une jeune fille dont vous parlez dans votre livre, c'est étonnant et c'est tragique, qui raconte que lors d'un camp, elle avait 13 ans, elle était sous la tente, le prêtre accompagnateur du camp est entré sous la tente et l'a touchée. Il n'y a pas eu de viol, mais il lui a touché les seins et le ventre. Et pour elle, il y a eu une bascule. Sa vie en a été totalement bouleversée, et c'est un traumatisme pour elle dont elle ne s'est jamais remise. On pourrait dire, mais c'est pas grand-chose.
Oui.
Et en réalité, c'est un cataclysme.
Oui, c'est un cataclysme. Il faut savoir qu'un abus sexuel sur un mineur, ce que je veux dire, c'est entraîne un avant et un après, un seul abus. Et c'est ça que moi j'ai appris en écoutant les personnes que je reçois. C'est, voyez, vous vous cassez le bras, vous avez mal, mais votre bras se remet. Et même, je dirais, pratiquement un cancer, vous êtes malade, vous savez que vous êtes malade, vous suivez opération, chimiothérapie, et puis, dans la plupart des cas aujourd'hui, vous vous en remettez. Là, lorsqu'il y a un abus sexuel sur un mineur, et c'est ça qui est effroyable, là où il n'y a ni violence physique exprimée, ce que je veux dire, c'est d'une violence terrible pour la personne, justement c'est ça que je suis en train de dire, mais il n'y a pas de violence que l'on puisse voir.
Mais ça peut même se faire, vous le dites, hein, avec une espèce de douceur,
ah oui,
très perverse, mais de la douceur.
Oui, absolument, le plus souvent ces abus sexuels surviennent dans la douceur. Et donc là, pour le jeune, c'est irreconnaissable. Et pourtant, en eux, tout a changé. C'est-à-dire, moi, je me souviens en particulier d'une petite fille, lors d'un mariage, elle avait subi un abus sexuel, et dans la manière dont elle racontait, elle ne percevait plus le monde de la même manière entre avant et après. Quand elle était rentrée chez elle après le mariage, elle ne savait plus qui elle était. C'est ça le drame des abus sexuels sur les enfants. C'est-à-dire que leur cerveau est incapable d'intégrer ce qui est en train de se passer. Eux croient à la tendresse, ils croient à l'amour, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose dans leur corps qui fait, les dessins des enfants l'expriment bien, comme une explosion. Ils se retrouvent en petits morceaux.
Et quand ça vient d'un clerc, d'un religieux, d'une religieuse parfois d'ailleurs, ça décuple l'effondrement de la confiance, c'est un tsunami.
Oui, c'est totalement un tsunami. J'ai repéré, même chez les enfants qui n'étaient pas issus de familles chrétiennes, etc., lorsque le mal survient de la famille, eh bien, Oui, survient de la famille ou d'habitude loisirs, etc. Il y a toujours un espoir en un autre chose, même chez les, je dirais, chez ceux qui n'appartiennent pas à une religion particulière. Il y a comme un espoir de quelque chose. Et là, lorsque cela vient d'une personne qui représente quelque chose de religieux, je n'ose pas dire qu'il représente Dieu, parce que c'est pas toujours ça. Mais en tout cas, c'est comme si c'était Dieu lui-même, peut-être du sacré, qui est endommagé. Et moi, j'ai des personnes, et vous parliez de ces jeunes filles sous la tente, effectivement, moi, j'ai des personnes qui vivent cette situation-là, qui ont aujourd'hui 80 ans, et qui m'ont dit, je ne suis plus jamais retournée dans une église. Parce que, pour moi, c'était Dieu lui-même qui me faisait ça.
Alors vous en faites quoi de tout ce que vous entendez, Isabelle Chartier-Sibène? Vous dites que vous êtes très formée, vous avez une méthode, une méthodologie, oui. Je suppose. Oui. Et en même temps, vous entendez, vous avez, j'imagine, une forme de compassion, mais jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Et à quel moment vous ne pouvez pas aller au-delà de la compassion?
Je ne me suis jamais posé cette question-là. Donc là, je ne saurais pas trop quoi répondre. Tout ce que je sais, c'est que mes patients m'édifient. Si vous voulez. Moi, mon but est de les aider à trouver ce que j'appelle, moi, une étincelle de vie sous les décombres. On va fouiller, on va d'abord remettre le monde à l'endroit, c'est-à-dire où est le bourreau et où est-ce que je me situe, moi. Voilà. Où est ma responsabilité? Si j'ai une toute petite responsabilité dans l'affaire, on la nomme. Si je n'ai aucune responsabilité, ce qui est le cas pour les abus sexuels sur mineurs, eh bien, ça, je force ce passage-là pour que la personne adhère à ce qui est la vérité. C'est-à-dire qu'un mineur n'a aucune responsabilité. Bon, alors après, pour les majeurs sur les abus, les manipulations, sur les abus spirituels, etc., s'il y a une toute petite responsabilité, il faut la reconnaître, de façon à ne pas enfermer la personne dans un état de victime. Bon, et puis après, essayer bien remettre le monde à l'endroit, où est-ce que la personne s'est montrée bourreau vis-à-vis de moi, agresseur vis-à-vis de moi. Et moi, ce que je veux dire, moi je suis moi-même aidant à ce cheminement, je participe à cette recherche. J'ai toujours cette image en moi, ce sont les chercheurs d'or, vous savez, avec leur, comment ça s'appelle, leur...
Un tamis
Oui, avec leur tamis. Voilà, et donc on cherche
la pépite, si petite soit-elle.
Voilà, on cherche la pépite. Alors c'est pas une pépite d'or là, en l'occurrence, ça rend pas les gens plus riches financièrement, mais c'est la pépite de vie que nous cherchons. Et moi, c'est quelque chose qui me remplit de bonheur lorsque s'allume cette petite flamme que l'on cherche parfois, qu'on cherche depuis des semaines, des mois et parfois des années.
L'homme avec un H, un grand H, vous devez par moments en désespéré, non? Qu'est-ce qui fait votre espérance?
Je m'attache toujours aux petites choses. Alors, je n'ai pas une grande espérance comme ça. Mon espérance, c'est que j'ai un corps qui, aujourd'hui, me permet de marcher, etc. Et donc, j'aime énormément marcher. Et je me dis, je n'ai pas besoin d'artifice pour pouvoir vivre. Et puis, la nature est belle. Et c'est vrai que j'ai besoin, de temps en temps, quand même, de me détacher des êtres humains pour pouvoir admirer la nature, et la nature me restaure. Et mon espérance est dans le fait que on peut accéder au Christ si on reste dans la vérité.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, Isabelle Chartier-Sibène. Je rappelle que votre livre s'appelle « Trois jours dans la nuit » et qu'il est publié aux éditions de l'Emmanuel. Merci.
Merci, au revoir.